Session Deus Caritas Est, juillet 2012. Présentation de la première partie de l'encyclique L'unité de l'amour dans la création et dans l'histoire du salut par Père Bernard, modérateur de la famille missionnaire de Notre-Dame.
Nous vous remercions donc de votre présence à notre cinquième session en ce foyer de sens. Le thème ne vous a pas laissé indifférent, nous en rendons grâce à Dieu. Merci au nom de Jésus et de Notre-Dame des Neiges, merci aussi au nom de Dieu, notre Père, et du Saint-Esprit, d'avoir bien voulu prendre 3 jours en ce temps de vacances pour réfléchir et prier. Dieu vous récompensera au centuple, j'en suis convaincu. Benoît XVI cite Saint Jean au début de son encyclique. C'est lui, en effet, le disciple que Jésus aimait, qui, dans sa première lettre, écrivait « Dieu est amour, Deus caritas est, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui ». Donc c'est la première Saint Jean, chapitre 4, verset 16. Le verbe « demeurer » est important pour Saint Jean, particulièrement dans le discours après la scène et la conclusion de l'évangile selon Saint Jean. Pierre, qui venait de réparer son triple reniement par une triple profession d'amour, demanda à Jésus ce qu'il adviendrait de Jean. Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Pierre a suivi Jésus. Il est mort martyr en l'an 64 à Rome. Jean aurait dû aussi mourir martyr à Rome, mais Dieu l'a miraculeusement protégé. Il est devenu vieux, il a donc demeuré davantage sur cette terre comme Jésus l'avait annoncé. Ainsi, il a pu recevoir des révélations très importantes sur l'île de Patmos à la fin du 1er siècle, dont il a rassemblé l'essentiel dans l'Apocalypse. Il a ensuite écrit son évangile. Alors, écrit avec un secrétaire, bien évidemment. Et probablement, il a écrit aussi ses lettres. Il a demeuré jusqu'au début du IIe siècle, par la grâce de Dieu, pour donner ce grand témoignage. Dieu n'est pas seulement Yahvé, celui qui est, celui qui crée les autres êtres sans dépendre d'aucun autre être. Dieu est aussi et surtout amour. Dieu est amour. Comprenons bien ce que veut nous dire Saint Jean. L'amour n'est pas une qualité, un attribut de Dieu, mais tout simplement Dieu lui-même. Cette révélation n'exclut pas la première grande révélation de Dieu à Moïse, « Je suis, Yahvé ». Elle n'exclut pas non plus les attributs métaphysiques donnés à Dieu dans la théodicée, un, vrai, beau, bon. Elle n'exclut pas enfin cet autre nom de l'amour qu'est la miséricorde. Mais au terme de sa vie, Saint Jean, l'apôtre de l'amour, a voulu privilégier ce nom de Dieu, Deus Caritas Est, ou Agapé. L'encyclique de Benoît XVI ne veut pas être une pure contemplation de ce mystère ineffable. Notre pape veut nous parler, et parler à l'homme de notre temps et aux hommes de tous les temps, appelés à demeurer dans l'amour qu'est Dieu. Avec Benoît XVI, nous devons savoir répondre à cette question fondamentale. Que peut apporter Jésus aux hommes de notre temps ? Jésus n'apporte pas plus d'argent. Il n'apporte pas plus de plaisirs sensibles, plus de biens matériels, plus de pouvoir, plus de gloire humaine. Mais il apporte Dieu tout simplement. Il révèle le vrai visage de Dieu. Et son vrai visage de Dieu, c'est l'amour, car Dieu est amour. Jésus n'est pas venu sur cette terre comme un professeur de philosophie ou de théologie, mais comme notre sauveur. Il est venu accomplir notre rédemption en nous révélant que nous sommes créés par l'amour pour vivre éternellement dans l'amour. Par la rédemption, par la croix, il nous rachète de nos péchés et nous redonne la capacité d'aimer comme lui. Quelle œuvre merveilleuse que l'œuvre de la rédemption. Puisse cette session nous faire entrer dans l'action de grâce. Par la grâce de Jésus, je suis capable d'aimer comme lui. La révélation de l'amour de Dieu est urgente et actuelle. Dans un monde où l'on associe parfois la vengeance au nom de Dieu, ou même le devoir de la haine et de la violence, écrit Benoît XVI dans l'introduction, c'est un message qui a une grande actualité et une signification très concrète. C'est pourquoi, dans ma première encyclique, je désire parler de l'amour dont Dieu nous comble et que nous devons communiquer aux autres. Par là sont ainsi indiquées les deux grandes parties de cette lettre profondément reliées entre elles. La première aura un caractère plus spéculatif, étant donné que je voudrais y préciser au début de mon pontificat certains éléments essentiels sur l'amour que Dieu, de manière mystérieuse et gratuite, offre à l'homme, de même que le lien intrinsèque de cet amour avec la réalité de l'amour humain. La seconde partie aura un caractère plus concret, puisqu'elle traitera de la pratique ecclésiale du commandement de l'amour pour le prochain. La question est très vaste. Un long développement dépasserait néanmoins le but de cette encyclique. Je désire insister sur certains éléments fondamentaux de manière à susciter dans le monde un dynamisme renouvelé pour l'engagement dans la réponse humaine à l'amour divin. Fin de citation. Nous allons approfondir aujourd'hui la première partie de l'encyclique. La seconde partie, nous l'approfondirons demain. Le titre de cette première partie de l'encyclique exprime bien le contenu. L'unité de l'amour dans la création et dans l'histoire du salut. L'amour qu'est Dieu est le principe unificateur de tout ce qui existe. C'est cela que veut nous révéler Benoît XVI. Saint Augustin a distingué les personnes divines en disant « Le Père est amans », donc ceux qui ont fait du latin, vous allez comprendre, « amans », c'est le participe présent actif, celui qui aime. Le Fils est amatus, c'est le participe passé, celui qui est aimé. L'Esprit Saint est amor, amour. Mais le principe unificateur, mais amans, amatus et amor ne sont qu'un seul Dieu. L'amour est donc bien le principe unificateur de la Trinité. Il est aussi le principe unificateur de la création et de l'histoire du salut. Dieu nous crée par amour, Dieu nous sauve par amour. J'ai demandé à Luc Jäger, qui est scientifique, qui fait de la recherche, qui a déjà parlé plusieurs fois ici, lundi, il nous dira, en tant que scientifique, le lien entre la bioéthique et l'amour de Dieu. Le lien entre la vie et l'amour de Dieu. Donc c'est l'amour qui nous crée. C'est l'amour qui nous sauve. Mais l'amour n'est pas une unique personne divine. C'est le Dieu unique en trois personnes. Le Père, celui qui aime, Amans. Le Fils, celui qui est aimé, Amatus. Et l'Esprit Saint qui est Amor. C'est ce Dieu en trois personnes qui me crée. Créé à l'image et à la ressemblance de ce Dieu un et trine, homme et femme, égaux et complémentaires, nous sommes tous appelés à l'amour. Jean-Paul II, l'auteur de « Personnes et actes », un chef-d'œuvre, mais difficile à lire et à assimiler. Il faudrait peut-être qu'une année, nous prenions « Personnes et actes » comme thème de notre session, mais ce ne sera pas facile. Donc Jean-Paul II, auteur de « Personnes et actes », disait « La personne se réalise dans le don de soi, dans l'amour. » Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de la science de l'amour divin, avait aussi bien compris cela, avec d'autres mots, « Aimer, c'est tout donner » et se donner soi-même. Mais pour réaliser notre vocation à l'amour, il est nécessaire de puiser l'amour à sa source, Dieu Trinité. La conclusion de la première partie de l'encyclique devient alors lumineuse et compréhensible. Amour de Dieu et amour du prochain sont inséparables, dit Benoît XVI. C'est un unique commandement. L'un et l'autre sont fruits de l'amour prévenant de Dieu qui nous a aimés le premier. Ainsi, il n'est plus question d'un commandement qui nous prescrit l'impossible de l'extérieur, mais au contraire d'une expérience de l'amour donnée de l'intérieur, un amour qui, de par sa nature, doit par la suite être partagé avec d'autres. L'amour grandit par l'amour. L'amour est divin parce qu'il vient de Dieu et qu'il nous unit à Dieu. Et à travers ce processus d'unification, il nous transforme en un « nous » qui surpasse nos divisions et qui nous fait devenir un, jusqu'à ce que, à la fin, Dieu soit tout en tous. Cette encyclique est prophétique. Aimer, voilà notre vocation. Il n'y a que l'amour. Mais on ne peut aimer qu'en s'abreuvant à la source, Dieu qui est amour. Benoît XVI parle d'un réel problème de langage. Le mot « amour » est utilisé pour signifier des réalités bien différentes. Dans notre langue française, nous disons que nous aimons la confiture, que nous aimons le chocolat, que nous aimons le sport, que nous aimons notre chien, que nous aimons notre chat, que nous aimons les belles œuvres, que nous aimons le cinéma, que nous aimons notre travail, que nous aimons nos amis, les membres de notre famille, notre conjoint, et enfin, que nous aimons Dieu. Toutes ces formes d'amour, demande Benoît XVI, s'unifient-elles finalement? Et malgré toute la diversité de ces manifestations, l'amour est-il en fin de compte unique? Ou bien au contraire, utilisons-nous simplement un même mot pour indiquer des réalités complètement différentes. La session devrait répondre à cette importante question. La langue grecque est plus riche que la langue française. Trois mots sont utilisés pour signifier l'amour. Il y en a peut-être encore un quatrième, mais Benoît XVI s'arrête à trois importants. Eros, philéine et agapé. Eros signifie le désir. On en a retenu dans notre culture actuelle, ou dirions-nous plus d'une façon plus vraie, notre anticulture, que le désir charnel. Donc quand on parle d'éros, on parle érotisme et on ne voit qu'un éros défiguré. Philéine est, pourrions-nous dire, l'affection, l'amour d'amitié. Agapé est traduit par amour de charité, don de soi. Benoît XVI va surtout retenir Eros et Agapé. Pour nous faire découvrir la différence et l'unité. Oui. Benoît XVI a fait une longue et lumineuse analyse d'Eros et d'Agapé afin d'aider les hommes à redécouvrir la signification originale de l'Eros dans le plan de Dieu créateur, et de montrer que ces deux manifestations de l'amour ne se combattaient pas nécessairement, mais pouvaient et devaient être vécues dans l'unité de la personne. Benoît XVI a finalement démontré qu'Eros et Agapé sont différents, mais complémentaires, et qu'ils doivent exister l'un et l'autre dans la personne humaine qui a un corps, un cœur et un esprit. Avant de présenter la pensée de Benoît XVI, je voudrais faire cette petite considération personnelle qui, je le crois, n'est pas en opposition avec la pensée de notre Saint-Père. Adam et Ève, avant le péché originel, dans l'état de sainteté originelle, aimaient dans l'unité parfaite d'Eros, Philéine, et agapé. Eros n'était pas en eux une passion mauvaise, mais une passion amoureuse, bonne, voulue de Dieu. Le péché originel a brisé l'unité entre Eros, Philéine et agapé. Benoît XVI parle des défigurations de l'amour dans l'histoire humaine. L'une des plus grandes défigurations a été la prostitution sacrée, perversion de la religion à laquelle ne pouvait que s'opposer l'Ancien Testament, dit-il. L'éros ivre et indiscipliné, écrit Benoît XVI, n'est pas une montée, une extase vers le divin, mais une chute, une dégradation de l'homme. L'homme ne doit pas se laisser dominer par cet instinct éros dégradé. Des purifications et des maturations sont nécessaires, dit encore Benoît XVI. Elles passent par la voie du renoncement. Ce n'est pas le refus de l'éros, ce n'est pas son empoisonnement, mais sa guérison en vue de sa vraie grandeur. Alors, je suis allé très vite. Benoît XVI a voulu montrer que l'Église n'était pas contre Eros, mais contre la défiguration d'Eros qui s'est révélée tout au long de l'histoire de l'humanité et qui se révèle encore plus aujourd'hui avec, si vous voulez, toute cette anticulture que nous voyons aujourd'hui, hein, avec l'érotisme particulièrement. La façon d'exalter le corps, dit Benoît XVI, à laquelle nous assistons aujourd'hui est trompeuse. L'éros rabaissé simplement au sexe devient une marchandise, une simple chose que l'on peut acheter et vendre. Plus encore, l'homme devient eu de marchandise. L'Église, cependant, ne condamne pas l'amour humain. En commentant le livre du Cantique des Cantiques, Benoît XVI enseigne que tout homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu est en recherche d'amour. Cette recherche d'amour peut avoir un côté égoïste, mais elle trouve en l'autre forme d'amour que l'on appelle agapé un complément qui lui permet de surmonter l'égoïsme pour aimer non plus pour le bonheur égoïste, mais pour le bonheur de l'autre. Les deux manières d'aimer, cependant, ne sont pas en opposition. Benoît XVI le montre d'une manière claire et lumineuse au numéro 7 de l'encyclique. L'amour éros, dit-il, l'amour en recherche est comme un amour ascendant. L'amour agapé est comme un amour descendant. Il ne faut jamais séparer complètement l'un de l'autre. L'homme, dit Benoît XVI, ne peut pas vivre exclusivement dans l'amour oblatif descendant. Il ne peut pas toujours seulement donner, il doit aussi recevoir. Celui qui veut donner de l'amour doit lui aussi le recevoir comme un don. L'homme peut assurément, comme nous le dit le Seigneur, devenir source d'où sortent des fleuves d'eau vive. Mais pour devenir une telle source, il doit lui-même boire toujours à nouveau à la source première et originaire qui est Jésus-Christ, du cœur transpercé duquel jaillit l'amour de Dieu. Au numéro 9 de l'encyclique, Benoît XVI fait preuve d'une grande audace en attribuant l'amour éros à Dieu lui-même. La créature est chère à Dieu créateur, dit Benoît XVI, non seulement parce qu'elle a été voulue par lui et faite par lui, mais encore parce que Dieu aime l'homme. Cela nous paraît, je dirais, évident, nous chrétiens, de dire « Dieu aime l'homme ». Mais pour Aristote, ce n'était pas évident. Et c'est ce que dit Benoît XVI. Pour Aristote, la puissance divine n'a besoin de rien et elle n'aime pas. Elle est seulement aimée. Mais Dieu, notre Créateur, lui, aime personnellement l'homme et la femme. Il aime d'un amour d'élection Israël. Cet amour de prédilection peut être qualifié sans aucun doute, dit Benoît XVI, comme éros. Je pense que c'est la première fois qu'un pape attribue l'amour éros à Dieu. Je ne pense pas qu'il y ait un autre pape qui ait eu cette audace. Mais il est en même temps, dit Benoît XVI, et totalement agapé. Et le pape cite les prophètes Osée et Ézéchiel pour parler de la passion amoureuse de Dieu pour son peuple. Que veut signifier le Saint-Père ? Tout simplement ceci, l'amour de Dieu pour l'humanité, l'amour de Dieu pour Israël, l'amour de Dieu pour chacun de nous, n'est pas un amour distant, froid. Non, l'amour de notre Dieu est l'amour passionné d'un Dieu amoureux. Peut-on se scandaliser d'un tel amour ? Sainte Marie-Madeleine, Saint Bernard ne s'en scandalisaient pas. Dieu Tout-Puissant n'a pas besoin de nous pour exister, c'est un fait. Mais il nous crée librement et il veut sceller un pacte d'amour avec nous. Ce pacte prend le nom d'alliance, de mariage entre Dieu et l'humanité. Dieu est devenu l'époux d'Israël. Jésus est l'époux de l'Église. Dieu aime son épouse d'un amour passionné. Cet amour passionné, Benoît XVI ose l'appeler éros. Mais cet amour de Dieu est aussi totalement agapé. Le Créateur de toutes choses est quelqu'un qui aime avec toute la passion d'un véritable amour. De la sorte, l'éros est ennobli au plus haut point, mais en même temps, il est ainsi purifié jusqu'à se fondre avec l'agapé. Quelle profondeur de pensée dans l'esprit d'un des plus grands papes théologiens de l'histoire de l'Église. Quelle pénétration du cœur de Dieu. Benoît XVI est un très grand intellectuel au cœur brûlant d'amour. La conclusion du passage le plus difficile de l'encyclique est absolument lumineuse. Le cantique des cantiques, reçu dans le canon de la Sainte Écriture, a été très vite interprété comme des chants d'amour décrivant en définitive la relation de Dieu avec l'homme et de l'homme avec Dieu. En se fondant sur la révélation, Benoît XVI peut répondre aux critiques contre la soi-disant rigidité de l'Église. Elle ne veut surtout pas empêcher l'homme d'être heureux, mais lui permettre au contraire d'atteindre la plénitude de bonheur auquel il est appelé. L'homme a été créé pour aimer et pour être aimé. Mais il ne doit pas se tromper de voie. L'érotisme, la pornographie conduisent en des voies sans issue. L'éros ivre et indiscipliné est chute et dégradation. Il conduit à l'esclavage de la chair qui s'oppose à l'Esprit Saint. Pour vivre unifié dans la vérité et l'amour, l'homme doit s'unir à Dieu. Mais cette unification, dit encore Benoît XVI, ne consiste pas à se fondre l'un dans l'autre, à se dissoudre dans l'océan anonyme du divin. Elle est une unité qui crée l'amour dans lequel les deux, Dieu et l'homme, restent eux-mêmes et pourtant deviennent totalement un. Celui qui s'unit au Seigneur n'est avec lui qu'un seul esprit, dit saint Paul dans la première aux Corinthiens au chapitre 6. Jésus-Christ est l'amour incarné de Dieu. Après avoir montré que les deux dimensions de l'amour, recherche de l'être aimé, éros, et agapé, don de soi à l'être aimé, Benoît XVI au numéro 12 parle de Jésus en recherche de la brebis perdue. La brebis perdue qui est l'humanité souffrante et égarée, appelée à devenir son épouse. Les paraboles du pasteur qui recherche la brebis perdue, la parabole de la femme qui cherche la drachme, la parabole du père qui va au-devant du fils prodigue et l'embrasse, toutes ces paraboles sont l'explication de l'être même de Jésus et de son agir. Dans sa mort sur la croix, s'accomplit le retournement de Dieu contre lui-même, dans lequel il se donne pour relever l'homme et le sauver. Tel est l'amour dans sa forme la plus radicale. En contemplant le côté ouvert du Christ, le chrétien trouve la route pour vivre et pour aimer. Notre Père fondateur a souvent parlé de la passion amoureuse du cœur de Jésus. La croix est une passion de souffrance, c'est certain, mais n'oublions pas qu'elle est aussi une passion d'amour. Jésus est l'époux divin à la recherche de ses époux égarés. Sa passion amoureuse lui a donné une ardeur d'amour qu'aucun fils d'Adam n'avait jamais eue. Il a donné sa vie pour les justes et pour les injustes. Il nous a tous aimés en nous connaissant chacun et chacune et en se livrant pour nous. Chacun peut dire « Je suis aimé d'un amour de prédilection par Jésus ». Benoît XVI n'a pas jugé bon de rappeler dans son encyclique cette vérité historique. Jésus n'a jamais eu d'épouse humaine, il n'a jamais exercé la sexualité, mais il a vécu dans le célibat consacré en accomplissant parfaitement la sixième béatitude, « Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». En notre contexte actuel de christianophobie, présentons le vrai visage de Jésus et n'ayons pas honte de notre Seigneur, de sa divine innocence, de son cœur si beau et si pur. Pilate avait dit, en présentant Jésus défiguré à la foule, « Voici l'homme, ecce homo. » Nous pouvons dire, « Voici l'amour, ecce caritas. » Jésus est l'homme parfait qui n'a jamais exercé la sexualité, mais qui a aimé passionnément avec un cœur humain. En tant que ressuscité aujourd'hui, il continue toujours à être passionné d'amour pour nous. Dans le chapitre 21 de son évangile, Saint Jean nous transmet la triple question de Jésus à Pierre. « M'aimes-tu ?» Dans le texte grec, le verbe utilisé par Jésus pour les deux premières questions est « agapé ». Le verbe de la troisième question est « philéine ». Donc, « m'aimes-tu plus que ceci, agapé ?» Deuxième question, « m'aimes-tu, agapé, sans plus que ceci ?» Et troisième question, « m'aimes-tu de l'amour d'amitié, philéine ?» Le français n'a pas la nuance, c'est dommage. Pierre, lui, répond toujours « Tu sais bien que je t'aime » en utilisant le mot « philéine ». Alors bien sûr, Pierre n'a pas parlé en grec et Jésus n'a pas parlé en grec. C'est Saint Jean, l'évangéliste, qui lui a traduit en grec. Mais il a traduit à partir d'une nuance qui existait dans le texte araméen. Ils ont parlé en araméen. Donc, Pierre ne dit pas « je t'aime de l'amour agapé », mais il dit « je t'aime de l'amour d'amitié ». Et ça se comprend. Les deux premières réponses se comprennent et on comprend la troisième question. Jésus dit « mais Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment de l'amour d'amitié ?» Jésus, comme un époux amoureux, a besoin que nous le redisions souvent, que nous l'aimons, pas simplement de l'amour d'agapé, mais de l'amour d'amitié, de l'amour amoureux. Nous devons être amoureux de Jésus. C'est donc bien en ce sens que Benoît XVI disait que l'amour éros pouvait être attribué à Dieu, car Dieu attend notre amour. Dieu quête notre amour. Et c'est tout à fait tout le message de Paray-le-Monial. Je conclue par amour de Dieu et amour du prochain, parce qu'après, les témoignages vont développer tout cela. Après avoir montré ces deux dimensions de l'amour qui sont présentes en Dieu lui-même, recherche de l'être aimé et don de soi à l'être aimé, Benoît XVI, en s'appuyant sur Saint Jean, a révélé les deux dimensions de l'amour dont nous avons déjà parlé, amour de Dieu et amour du prochain. Dans la première partie de son encyclique, le pape démontre que non seulement l'Église n'empêche pas l'amour et le bonheur de l'homme, mais qu'elle annonce aux hommes que l'amour humain, cette passion humaine, éros, qui pousse l'homme à aimer, et l'amour divin, agapé, qui nous est infusé avec la grâce sanctifiante, sont l'un et l'autre de grands dons de Dieu. L'Église se doit d'annoncer cette bonne nouvelle en ce monde où beaucoup de jeunes et de moins jeunes ne croient plus en l'amour et ne se croient pas capables d'aimer. L'homme est rendu capable par Jésus d'aimer comme Dieu aime, pour aimer d'un tel amour qui unifie Eros transfiguré et agapé, il doit puiser à la source Dieu amour, Deus caritas est.
Retrouvez l'intégralité de la session, texte, audio, vidéo sur le site http://session.fmnd.org.